RFI.
Alors, on dit quoi ?
Bonjour à toutes et à tous, c'est Alors on dit quoi sur RFI. Et si on parlait aujourd'hui de l'apparence ? Elle permet de communiquer et s'avère même être la première source d'information dont nous disposons. Nous sommes d'abord scannés, puis analysés physiquement dès les premières secondes d'une rencontre, avec pour résultat un impact positif, négatif ou neutre sur les autres. Consciemment ou non, notre image véhicule des messages sur tant de traits de caractère, allant de notre dynamisme à notre confiance en soi. Ce qui est sûr et certain, c'est que notre image ne laisse personne indifférent. Intéressons-nous à un métier qui a pour but primordial de valoriser et façonner notre image aux yeux du monde, celui de conseiller en image. Il allie des savoir-faire techniques associés à une bonne dose de psychologie. Coiffure, maquillage et look vestimentaire, ces coachs sont loin de se résumer à un simple professionnel de la mode. Car si l'amélioration de l'image personnelle et professionnelle reste importante, le conseiller agit sur la confiance et le bien-être des individus. Quel est donc son rôle ? Quelles sont ses missions ? Quelles formations suivre pour exercer ce métier ? Quels sont les débouchés et les salaires ? Importé des États-Unis, comment s'exporte-t-il en Afrique ? Les réponses tout de suite dans Alors on dit quoi ? C'est parti !
Alors on dit quoi ? Avec Diarran Diaye.
90% des informations transmises au cerveau sont visuelles. 90% de notre communication par la forme, c'est-à-dire par l'image. C'est dire l'importance de cette image et on en parle avec nos trois conseillères du jour. Rebecca Louyeye, merci d'être avec nous.
Bonjour, merci pour l'invitation.
Autre invitée à vos côtés, Brice Saphir, qui est également conseillère en image. Merci infiniment d'être avec nous.
Merci à vous pour l'invitation.
Et notre dernière invitée, Magali Kalala, dit Manuel Akem. Bonjour, merci d'être avec nous.
Bonjour, bonjour, merci pour l'invitation aussi.
Un plaisir. Alors, les filles, travailler notre image, ça stimule notre estime, ça agit sur la motivation et même sur celle des autres finalement. Qu'est-ce qui définit, qu'est-ce qui caractérise votre métier ? On va faire un petit tour de table. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez, Rebecca.
Pour moi, conseillère en image, j'accompagne les personnes à trouver leur style, leur identité, travailler sur leur apparence, sur leur confiance en soi et sur leur estime de soi.
Et pour vous, comment compléter cet aspect de votre métier qui vous caractérise et qui, on le sent, est une passion ?
Moi, je dirais qu'on les accompagne.
Brice Saphir.
Je dirais qu'on les accompagne sur l'épanouissement, que ce soit au niveau personnel, mais que ce soit au niveau professionnel aussi.
Magali, qu'est-ce qui finalement vous distingue du relooker ?
Alors, je dirais que c'est comme Rebecca et
Brie.
C'est un métier, donc on fait à peu près la même chose. Après, je dirais que chacune, selon, on va dire, sa personnalité aussi, on va affiner notre voix. Et moi, je l'ai affinée avec le développement personnel. Du coup, je lis le conseil en images au développement personnel. C'est important pour moi que les femmes que j'accompagne puissent s'aimer, avant tout d'abord. Parce que c'est vrai que c'est bien d'avoir une identité visuelle, mais elle doit refléter qui on est. Et il faut savoir qui on est. Et souvent, on a des femmes qui ne savent pas qui elles sont. Et on copie le style de l'une, de l'autre. Et c'est important de savoir qui on est, de s'aimer, pour s'approprier les pièces et les vêtements qu'on achète.
Comment vous avez réussi à établir, à personnifier votre image ?
Ah, waouh !
Quel travail vous avez mené ?
Je viens de loin. J'étais une petite fille complexée, mal dans ma peau. J'ai eu du mal à m'insérer dans la société, à l'école, au collège, à trouver des amis. Et donc, c'est par le biais du vêtement, parce que j'en ai une grande famille. On est neuf enfants, sept filles et deux garçons. Et du coup, j'avais que des sœurs plus belles les unes que les autres, toujours. Et moi, j'arrivais pas à trouver ma place. Et en piquant les fringues, un jour, je me rappelle, j'ai dit à ma mère, j'en ai marre, moi aussi, j'ai envie d'exister. Et là, j'ai commencé, c'était vraiment un déclic. Hein. Et là, j'ai commencé à piquer des fringues à mes grandes sœurs. Et quand je suis partie à l'école, on m'a dit, ah, il est bien ton look. Ça crée quelque chose en moi, en mode, ok, d'accord, donc moi aussi je peux exister. Alors, je n'avais pas confiance en moi, mais j'ai commencé à exister à travers le vêtement. Et au fur et à mesure, après, j'ai commencé à avancer, parce que de base, j'étais comptable de métier. Je travaillais en cabinet, j'ai réussi à avoir une identité vestimentaire, visuelle, mais je n'avais pas encore travaillé ma confiance en moi. Et c'est là, en fait, que je me suis rendu compte que être belle à l'extérieur, mais pas être belle à l'intérieur, c'est moche.
Ça ne fonctionne pas.
C'est moche.
Rebecca, parlons de votre look. Vous êtes hyper lookée. On est en radio. Est-ce qu'on peut décrire un petit peu votre style? Moi, je vois d'énormes lunettes, une casquette, je ne vois même pas vos yeux, une grosse veste, costard un peu masculine, un jean avec des... ce sont des bottes, finalement.
Des bottes en jean.
Comment caractériser ce look, un fort look?
En fait, moi, à l'inverse de Manuela, j'ai toujours eu confiance en moi. Par rapport à l'éducation que j'ai reçue, mes parents ont toujours fait que je me sente bien dans ma peau. Et en fait, en grandissant, j'ai beaucoup connu le rejet parce que j'avais un style vraiment très prononcé, très, très singulier et tout. Et c'était difficile, surtout dans la communauté dans laquelle j'évolue. C'était vraiment...
Quelle communauté en particulier ?
Justement, parce que je suis chrétienne. Et donc, du coup, j'ai connu le rejet par rapport à cela parce que dès que je passais, on voyait que moi, j'ai toujours osé, j'ai toujours porté des lunettes, j'ai toujours porté des vestes très imposantes, etc. Et j'ai dû aussi travailler sur le regard des autres vis-à-vis de moi. Est-ce que vraiment je m'habillais pour les autres ou est-ce que je me sentais moi-même bien dans ma peau?
Est-ce qu'il y a un moment dans votre vie où vous vous êtes habillée justement pour les autres?
Justement, non, jamais. Et franchement, c'était vraiment un challenge parce que toujours, mes parents m'ont toujours dit « N'oublie pas ton identité. Peu importe qui tu es, ton vêtement ne te définit pas en premier. C'est d'abord qui tu es à l'intérieur de toi. Tu vas le refléter. Et si les gens s'arrêtent seulement à ton habillement, il suffira qu'ils t'écoutent et ils verront que finalement, t'es quand même quelqu'un de
bien. » Et pour vous, Brice Saphir, parlez-nous un peu de votre identité, de ce qui vous caractérise. Vous êtes même spécialisée pour le conseil en images des femmes de petite taille.
Tout à fait. Donc moi, ce qui me caractérise, c'est que je fais 1m43. J'ai été très complexée auparavant. Et ce qui a fait que j'ai eu confiance en moi, c'est aussi les vêtements. Je n'avais pas peur de m'habiller classe. Je n'avais pas peur de m'habiller avec des talons.
Vous êtes plutôt du style élégant. C'est ce qui ressort en tout cas de ce qu'on voit sur vos réseaux et aujourd'hui même.
C'est ça, ce qu'on pourrait dire. Et ça m'a vraiment aidée. Et du coup, par la suite, j'ai développé ma page Facebook. Parce que, en fait, le complexe que j'avais eu et que j'avais réussi à surmonter, je voulais aider les petites femmes aussi à passer au-dessus de ça. Donc, j'ai commencé à... C'était dur pour moi d'aller sur les réseaux, mais j'ai commencé vraiment à développer cette communauté-là. Et c'est comme ça que je pourrais dire que c'est ma spécificité.
Et qu'est-ce qui, justement, caractérise cette spécificité de petite taille? Quels sont les besoins de ces femmes? Quelles sont les difficultés qu'elles rencontrent, notamment pour s'habiller? Pour exister.
Faut savoir que déjà les personnes de petite taille, donc c'est à partir de 1m43. En dessous de 1m43, c'est considéré comme nain. Donc moi déjà, je suis à la limite. Donc le problème, c'est que on a du mal, par exemple, pour trouver des vêtements sans aller chez le tailleur. Mmh. Il faut toujours, peut-être qu'il y en a beaucoup qui vont dans les rayons enfants. Mmh. Donc moi, je montre à ces femmes que moi, je ne vais pas dans les rayons enfants. Il y a de plus en plus de marques pour les petites. Donc, dans la mode, les petites, c'est celles qui font moins de 1m60. Donc, je leur montre qu'au lieu de porter des blazers à manches longues, de prendre, par exemple, des blazers à manches 3/4, par exemple. Ou maintenant, il y a de plus en plus de pantalons 7/8e. Mm-hmm. Vraiment, de leur proposer ce genre de vêtements-là.
Mm. Vous êtes atteinte du syndrome de Léry-Weill.
C'est ça.
C'est une cause rare de déformation des poignets.
Oui.
Est-ce que vous masquez cela? Est-ce que ça a eu un impact sur votre style?
Oui, ça a eu un impact parce que du coup, mes poignets sont très développés. Donc, je vais souvent mettre des bracelets, comme j'en ai mis un là d'ailleurs.
Oui.
Et après, au niveau de la force physique, c'est vrai qu'on en a moins. On est fatiguée assez rapidement. Et donc j'évitais au début les manches courtes. Mais après, vu qu'on est petite, on a du coup des petits bras. Mmh. Donc j'ai dû pallier à ça et porter des gros bracelets.
Mmh. Est-ce que ce syndrome a joué sur votre confiance, sur votre estime également, sur l'estime de soi?
Tout à fait.
Plus tôt dans votre vie?
Oui, tout à fait, parce que du coup, je voulais même me faire opérer. Faire l'allongement des jambes. Et il s'avère que, donc moi aussi, je suis chrétienne. Et du coup, je me suis dit, qui je suis pour dire que Dieu m'a mal créée?
Mmh. C'est la religion qui vous a finalement convaincue qu'il n'y a rien à changer?
C'est ça. C'est vraiment ma foi qui a fait que je me suis que je me suis acceptée. Et en fait, je me suis dit que Dieu m'a créée comme ça pour quelque chose et que j'avais une mission sur cette terre et qu'il fallait que je la...
Que vous le faites avec brio en plus. Et c'est marrant parce que depuis le début de l'émission, on parle de confiance en soi et finalement, vous avez toutes démarré avec, enfin presque toutes, parce qu'effectivement, Rebecca peut-être un petit peu moins, mais avec cette question du doute, de l'absence de confiance. Et aujourd'hui, vous avez relevé de nombreux défis pour donner des conseils aux autres et c'est ce qui est quand même hyper intéressant. On va écouter un reportage ensemble, les filles, qui a été réalisé par notre correspondant en Côte d'Ivoire. On va prendre la direction d'Abidjan où notre correspondant Yannick Dianoun a rencontré justement deux dames qui ont fait du conseil en images leur métier. Elles nous racontent leur mission et nous partagent leur passion. On écoute et on réagit ensemble.
Le métier du conseiller en images a le vent en poupe. Il n'est pas encore aussi populaire que les métiers d'avocat ou de médecin, mais il n'est pas moins utile à la société. Dans un monde professionnel de plus en plus concurrentiel, où l'on a besoin de se démarquer, présenter une image de prestige est nécessaire. Nous avons rencontré Naboufal, coach en communication et en personal branding. C'est un visage bien connu de cette pratique en Côte d'Ivoire et dans la sous-région ouest-africaine. Elle nous raconte avec passion ce que revêt le métier de conseiller en images et pourquoi il est nécessaire de travailler son personal branding.
La communication en images, autrement appelée personal branding ou développement gestion de la marque personnelle, c'est le processus par lequel les individus se différencient et se démarquent en identifiant, en articulant leur position de valeur unique, que cette valeur unique soit personnelle ou professionnelle. Et une fois qu'on a fait la différenciation, qu'on a identifié sa position de valeur unique, à travers ses compétences, son expérience, son expertise, on exploite alors cela avec pertinence à travers des plateformes avec un message et une image cohérente afin d'atteindre un objectif. Voilà, c'est vraiment ça, la communication d'image ou le personal branding, comme on l'appelle en anglais. Aujourd'hui, on est dans un monde où il y a de plus en plus d'informations, on est en surabondance d'informations, donc il est très important de se faire connaître d'une certaine façon. Si on n'est pas reconnu, il sera difficile pour nous de développer des opportunités professionnelles. Donc les objectifs et les raisons pour lesquelles il faut le faire, pour moi, sont importants. Il y a d'abord la reconnaissance de notre expertise. Il y a deuxièmement le développement de réseaux et d'opportunités professionnelles. Troisièmement, développer une visibilité pertinente et stratégique en cohérence avec ce que l'on fait, avec ce que l'on est professionnellement. Et enfin, c'est un gage aujourd'hui, ça nous permet d'accéder à la réussite et au succès d'une certaine façon.
Si Naboufal a de la crédibilité aujourd'hui auprès de ses clients, c'est à cause de la somme d'expérience qu'elle a acquise pendant ses nombreuses années en entreprise.
Je suis dans la communication depuis à peu près une vingtaine d'années, pour ne pas dire presque 25 ans, et j'ai occupé différentes fonctions au sein d'entreprises, jusqu'à atteindre des fonctions de management très élevées, jusqu'à directeur, directeur général adjoint, directeur général. Cette expérience, combinée avec mon expertise dans la communication, m'a permis moi-même de développer une image de marque assez puissante qui me permet de développer du business, d'avoir des clients. Et cette visibilité, je l'ai construite au fil du temps. Et ce que je fais aujourd'hui, c'est accompagner des personnes à faire exactement la même chose.
En Côte d'Ivoire, il n'existe pas encore de formation officielle pour devenir expert en personal branding. Mais la plupart de ceux qui exercent le métier y ont eu accès grâce à leur passion et surtout grâce à leur envie d'aider les autres à devenir meilleurs. Anaïs Marie-Axel Alou, brand manager et experte en relations publiques, s'est prêtée à nos questions. Sa mission, aider ses clients à améliorer leur image sur Internet.
En ce qui concerne ce qui m'a poussé à vouloir aider les gens à entretenir leur image, c'est-à-dire à travailler sur leur branding, c'est plus l'idée selon laquelle je suis convaincue que notre image représente, surtout sur les réseaux sociaux, représente une sorte de miroir. Donc notre image compte beaucoup. Et il est important qu'on puisse avoir des personnes qui ont des compétences appropriées, surtout dans le sens des relations publiques, parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux sont un moyen de communication très, très important et qui représente en fait un pilier pour avoir plus d'opportunités. Donc, une image qui est très bien entretenue sur les réseaux sociaux attire plus d'opportunités et va imposer le respect. Une image qui est bien entretenue sur les réseaux sociaux va attirer des relations de partenariat, va attirer des opportunités et va imposer le respect, va aider aussi à impacter, à influencer. Et donc, la base, en fait, de cela, c'est le fait que je me sois dit qu'il est important que les gens aient des personnes qui ont des compétences requises pour ça. Donc, c'est la chose qui m'a poussé à vouloir aider les gens.
Pour Anaïs, les jeunes Africains doivent s'intéresser à ce métier. Pour ce faire, elle leur donne quelques conseils.
c'est le premier conseil, c'est de tenir bon. Parce que le plus grand challenge que j'ai eu au départ de ma carrière en tant que brand manager, c'est le fait que je sois jeune. Et donc, quand on est jeune, on est beaucoup plus challengé par les clients. Il n'y a pas forcément une sorte de confiance parce que les clients se disent qu'on vient de commencer. Donc, il faut pouvoir tenir bon et croire en ce qu'on fait. Parce qu'au fur et à mesure, en fait, on va finir par avoir de la reconnaissance. Et de leur dire de ne pas avoir peur de se prononcer dans les sujets qu'ils maîtrisent. Et donc, s'ils veulent se lancer dans la communication pour les personnes, pour la gestion d'image, qu'ils commencent à en parler, qu'ils commencent à faire d'abord eux-mêmes leur propre communication. Parce qu'il n'y a pas de bon communicateur si on ne sait pas qui est communicateur. Et donc, c'est très important qu'ils commencent déjà eux-mêmes à travailler sur leur image en ligne avant de vouloir travailler sur l'image en ligne d'autres personnes, à croire en eux, à croire en leur rêve et à ne pas se laisser influencer par n'importe quel événement dans leur vie. Parce qu'au fur et à mesure qu'ils construisent leur image, au fur et à mesure qu'ils travaillent, au fur et à mesure qu'ils se forment, ils finiront par réaliser leur rêve à devenir des public relations spécialistes de qualité dans la sous-région et pourquoi pas en Afrique.
Le personal branding permet ainsi de promouvoir son projet professionnel et son expertise et d'augmenter sa notoriété. Yannick Djaoun, Abidjan, pour RFI.
Merci infiniment. Yannick, alors une réaction autour de ce métier qui est quand même fort, hein, un impact personnel mais aussi professionnel. Que retenir de ce reportage, Brice Saphir?
Moi, je retiens la cohérence parce que c'est ce qu'on essaie d'amener avec nos clients. C'est vraiment que leur personnalité puisse ressortir à travers leurs vêtements. Et si on prend le style d'une autre personne, on ne peut pas être cohérent avec soi-même. Donc nous, on va être là pour accompagner nos clients à être cohérents avec leur personnalité et ce qu'ils veulent transmettre.
Alors, comment définir cette singularité? On part du principe qu'il faut établir un diagnostic autour de la personne?
Tout à fait. Donc, il y a un diagnostic qu'on fait avec cette personne. Il y a un entretien. Donc, on l'écoute, ce qui est très important. On lui pose des questions adéquates pour pouvoir connaître ses besoins, savoir ce qu'elle attend de nous, l'image qu'elle veut transmettre. Il y a vraiment ce côté développement personnel qui rentre en jeu.
Pour compléter, je vous vois effectivement acquiescer. Rebecca Lulier, vous vouliez travailler dans la mode comme styliste. Finalement, vous avez été conseillère en économie sociale et familiale durant de nombreuses années et en parallèle directrice artistique d'une marque. Comment vous avez appris ce métier de conseillère en images?
Ben, en fait, moi, c'était à force de voir les gens et de les conseiller. Je me suis intéressée au métier. Et en fait, je cherchais le métier qui pouvait allier le conseil, donc ne pas vraiment quitter mon métier de conseillère en économie sociale et familiale, qui est travailleur social, et allier la mode et accompagner les gens.
Ça peut paraître quand même différent, deux mondes complètement opposés.
Oui, effectivement, mais la particularité dans mes accompagnements, le fait que je sois travailleur social, j'arrive à plus facilement identifier des besoins et des problématiques parce que j'ai 5 ans d'expérience en tant que travailleur social, et surtout qu'au départ, moi, j'ai travaillé dans la psychiatrie. Donc directement, je suis rentrée dans le vif du sujet, j'ai étudié la psychologie, etc. Donc j'arrive rapidement à identifier ces besoins-là et connaître le budget de la personne, travailler sur son budget parce que je l'ai fait pendant 5 ans.
Comment on établit le diagnostic?
Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais avoir un entretien avec mon client. Je vais chercher à identifier ses besoins, chercher à connaître qu'est-ce qu'il a besoin, où est-ce qu'il veut aller, à qui il veut ressembler, est-ce qu'il a des personnes qui l'inspirent et toutes ces choses-là. Donc après avoir fait cet entretien-là, on va fixer ensemble un rendez-vous et on va avoir un accompagnement personnalisé. On va identifier quelle est sa colorimétrie, quelles sont les couleurs qui vont le mieux au teint, sa morphologie, silhouette. On va faire ensemble un tri du dressing, etc. Mais il faut que le feeling passe entre nous. Il faut que vous soyez convaincu de la personne qui va vous accompagner parce que vous allez exposer votre vie. Quand par exemple, je vais chez le client, je rentre dans son dressing, c'est son intimité. Il faut que la personne, elle se dise que non, Rebecca ne va pas me juger et elle ne va pas me transformer en elle. Elle va respecter mon identité et ma personnalité.
Magali, qu'en est-il pour vous? C'est vrai que dans le reportage, on a abordé cette question des réseaux sociaux, de votre présence, vous, en tant que personne et personnalité, effectivement. Mais comment on distingue votre métier de votre personnalité sur la toile? C'est un peu confus sur les réseaux sociaux parce qu'on vous voit avec des personnalités fortes, avec chacune vos styles respectifs, mais on ne voit pas forcément le travail de conseillère en images.
Alors moi, c'est un peu comme Rebecca. Moi, je ne montre aucune de mes clientes. Déjà, pour commencer, je ne montre aucune de mes clientes, tout simplement parce que... Quand je commence, en fait, quand une cliente vient vers moi, donc déjà elle passe par mon site internet. Donc, via mon site internet, elle peut déjà voir ce que je propose. Et c'est vrai que j'ai, on va dire, un style propre à ma personne. Moi, je ne me mettrais pas dans
élégant, chic, on voit des photos très travaillées.
Oui, mais je veux dire que je suis un peu un caméléon. Ça veut dire que moi, c'est vraiment, je vais bien fonctionner mes humeurs. Je ne me mets pas dans une case. Et souvent, ce qui fait peur aussi aux clientes, c'est de se dire, choisir un style approprié. Et moi, je pense qu'on peut avoir plusieurs styles en fonction de nos humeurs, de nos moods, de notre envie du jour.
Du contexte, de l'environnement aussi.
Exactement.
Peut-être.
Donc du coup, ce que je fais, c'est que lorsqu'une cliente prend rendez-vous avec moi, donc au premier abord, quand on choisit une conseillère en image, c'est ce qu'elle dégage. Ça veut dire qu'on va regarder le compte Instagram de chacune des femmes qui est ici, et on va dire, waouh, j'aime bien ce qu'elle dégage, donc on va l'approcher. Et après, c'est le contact humain qui va faire que ça va aller plus loin. Donc du coup, moi, tous mes rendez-vous se prennent en ligne et se font avec, un entretien de 2 heures. Et dans l'entretien de 2 heures, j'ai 30 minutes, on commence tout de suite par... j'ai plein de questions que je leur pose. Je veux les connaître.
Pour découvrir qui sont
ces clientes. Je veux savoir qui elles sont. Et on va dire que j'ai ce petit côté où j'arrive à lire ce qu'elles ne me disent pas. Donc ça veut dire que dans cette partie-là, on ne parle pas de vêtements, on ne parle pas de style, on ne parle que d'elles. Et ce premier contact fait qu'il y a un lien qui se tisse. Ensuite, comme je ne veux pas les mettre dans une boîte, je leur propose une panel de styles, différents styles, et je leur dis qu'elles peuvent aimer plusieurs choses. Ensuite, après, comme chacune des femmes ici, on va... je ne vais pas en shopping tout de suite avec elle, parce que je veux leur amener sur le fait qu'on peut s'habiller avec ce qu'on a dans la garde-robe, mais il faut juste choisir des pièces qui sont adaptées à notre morphologie. Donc, il faut connaître sa morphologie, il faut aimer sa morphologie. Il faut connaître ses atouts. Si on a des complexes, on les change, on les transforme, on les voit différemment. C'est vraiment ce gros travail, on va dire, que je souhaite d'abord amener avant même de partir dans le style.
Il faut à la fois comprendre les attentes de ses clients ou clientes, mais aussi réussir à faire passer ses conseils, ses recommandations, sans vexer, sans froisser. C'est un challenge, il faut un adroit psychologique important quand même.
Oui, il faut un adroit psychologique important. C'est vrai que dans ma formation que j'ai faite, il y avait une partie vraiment aussi psychologie, où on nous apprenait à comment aborder nos clientes, parce qu'elles nous font rentrer dans leur intimité, et il faut choisir les bons mots. Un mot maladroit peut braquer une cliente. Donc, je pense qu'avec toutes mes consœurs, on est dans la valorisation, dans l'accompagnement, dans les mots positifs. Moi, j'aime bien, par exemple, quand je parle des atouts et des défauts, je n'ai pas de défauts, en fait. C'est comment rendre ce que tu aimes moins en plus beau, comment faire pour que ce que tu n'apprécies pas en toi. Et souvent, je me rends compte qu'il y a des femmes... Je vais les avoir en rendez-vous, elles vont me dire « je n'aime pas mes jambes, elles sont en X ». Moi, j'ai les photos, on va peut-être passer 15 minutes sur son corps, mais du coup, je veux lui faire apprécier son corps. Et ça, c'est parce que aussi par rapport à mon parcours, comme je ne m'aime pas, donc j'ai conscience en fait de l'importance d'aimer chaque parcelle de son corps et de la valoriser. Et du coup, quand on arrive du coup, au niveau où finalement la cliente se dit « mais en fait, je ne suis pas comme je pensais être ».
Et il faut combien de temps pour justement accompagner ces filles et combien de séances est-il nécessaire d'établir? Est-ce qu'il y a un packaging qui définit cet accompagnement? Comment concrètement ces rendez-vous s'étendent dans le temps?
En fait, il y a certaines conseillères en images qui vont dire en fait, le relooking, c'est le jour, l'instant T. C'est vraiment une transformation radicale, totale, qui n'est pas tout le temps adapté à la personnalité de la cliente, parce qu'il n'y a pas le côté diagnostic, il n'y a pas le côté entretien. Alors que la conseillère en image, elle va vraiment rentrer dans l'intimité de la cliente et pour pouvoir l'accompagner et ensuite aussi qu'elle puisse être indépendante, qu'elle puisse avoir les tips pour pouvoir bien s'habiller et se mettre en valeur.
On va continuer de parler de ce métier de conseillère en images, de l'accompagnement que vous menez auprès de nombreux clients, clientes. On écoute d'abord Didi B, Shogun.
Dans ce game, je vous rends mou, pourvu que ça dure. J'ai aucune idée de l'empire que je suis en train de bâtir. Ne te trompe guère, c'est le moment d'être dans le navire. Je suis le dieu du game, mais vos rappeurs sont mes créatures. Et j'arrive en wall-off, coup de coude, on te met des balafres. Ton rappeur aura le palu s'il arrive à rapper sur d'une balafre. C'est le talent, Dieu les punisse. Font les morts, font les timides. Parle mal, mets-toi sur la liste. Et le bon, il va te rendre visite. Que des physiques, que des nocifs. Ouvrez les portes, que le velu rentre. Que vos rappeurs se pendent, vos rappeurs qui sont sans effet qui portent. Que des Gucci. Je fais la musique pour mon pays, mais sans cette, c'est pas les Gaulois. Dans ce game, on sait qui est Fali, Pouba, on sait qui est Ferregola. Je prends mon temps, surveille les nuages. Quand il veut venir, c'est pas bon. Quand il veut venir, c'est pas bon. Shogun. 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 Tu rigoles le matin, on attend la nuit. Tu vas pas croire. Shogun. 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 moi, Sénégal, Ndjitou, Côte d'Ivoire, Axine. Je suis écouté dans la rue, dans tous les bars, car les taxis, man. Meilleur rappeur, les autres, c'est les sometimes. Sont des étoiles sous le sunshine. En vrai, c'est pas permis, mais je fais des punchlines par accident. Je fais la DA de mes sons, je participe à mes instrus. Je suis enfant de musicien, je sais tout faire, c'est mon excuse. Le rap africain, ma maison, partir en vacances, je me le permets. Beaucoup de rappeurs fake comme les coachs remplis sur internet. Je prends mon temps, surveille les nuages. Quand je vais venir, c'est pas. Quand il veut venir, c'est pas bon. Shogun, 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 Shogun. Tu rigoles le matin, on t'attend la nuit. Tu vas pas croire si tu nous vois fondir. Shogun, 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 Shogun.
Didi B, Shogun, dans Alors on dit quoi ? On continue de parler d'un métier, de l'apparence, mais de ces femmes et hommes qui façonnent notre image. On va prendre nos auditeurs en ligne, à commencer par Anna Touré, fondatrice de Anna Touré Public Relations, une agence de relations publiques spécialisée en beauté, mode et art de vivre et qui travaille notamment sur l'image de certaines marques. Anna, vous le savez, est aussi parmi nous dans Alors on dit quoi pour de nombreuses thématiques. Anna, bonjour.
Bonjour Viara.
Merci d'être avec nous, Anna. Alors, vous le savez, on parle aujourd'hui du métier de conseiller en image. Bien gérer son image, ça permet d'augmenter sa visibilité, de mobiliser ses équipes, de convaincre parfois des partenaires économiques. Parlons de l'image de la marque. Comment on établit une image de marque avec un client ?
Alors, bonjour à toutes, parce que je n'ai pas accompagné mes autres consoeurs également. Alors, on commence, c'est très simple. Le plus important, c'est d'identifier les objectifs de la marque qu'on accompagne afin de pouvoir lui proposer des options qui correspondront aux objectifs que la marque cherche à atteindre. Et lorsque je parle d'accompagnement d'image par rapport à l'image de marque d'une entreprise, d'une entité, c'est ce qui est visuel, mais aussi l'expérience que tout client potentiel va vivre avec cette marque-là. Ce n'est pas uniquement le visuel, mais c'est aussi l'expérience qui est vécue.
Et là encore, on démarre par un diagnostic aussi, comme quand il s'agit d'une personne lambda ?
Exactement. Donc, c'est beaucoup d'échanges. C'est beaucoup d'échanges parce que tout client est différent. Mmh. Une entreprise va savoir, certaines entreprises savent dès le début ce qu'elles veulent, mais elles ont besoin d'un accompagnement un peu plus pointu pour pouvoir exécuter ce qu'elles souhaitent atteindre comme objectif. D'autres ont des idées. Et par notre expérience, nous, on pourra peut-être mettre des mots sur ce qu'ils veulent, montrer des exemples, que ce soit des exemples de logos ou des manières de présenter leur site internet ou un storytelling qu'on peut les aider à créer ou à plus définir.
Est-ce qu'on pourrait citer, Anna, les trois erreurs, on va dire, qui reviennent le plus concernant la perception de ce métier de conseiller ou conseillère en images ?
Alors, ce que je dirais, parfois, c'est de trop vouloir copier ce qui se fait à l'extérieur sous prétexte que ça a marché pour certains. Il faut vraiment garder en tête qu'on est unique, singulier. Je ne dis pas qu'il ne faut pas s'inspirer ou avoir des exemples de certaines marques qui existent déjà, mais vraiment garder ce côté unique. Et je pense que les erreurs qui sont commises parfois, c'est de trop vouloir faire une sorte de copier-coller sous prétexte que ça a marché ailleurs. Mmh. Ensuite, une deuxième erreur, je dirais, c'est de vouloir aller trop vite. Il y a une grosse étape de recherche, de définition de l'image qu'on veut avoir avant de se lancer sur que ce soit des créations visuelles, que ce soit une culture d'entreprise qui est créée. Donc ça prend du temps, je dirais. Mm-hmm. Et en troisième erreur, je dirais ne jamais s'asseoir sur ses acquis. Penser long terme, une image se cultive toujours.
Anna, on parle d'image de marque. Il y a aussi les personnalités qui font appel à des professionnels. On cite notamment, j'ai beaucoup entendu parler de lui en préparant cette émission, Lou Roach. Il s'est imposé en tout cas ces dernières années comme l'un des professionnels les plus respectés dans le domaine. Et c'est le nom qui est derrière de nombreux looks de grandes personnalités américaines notamment. Que fait ce styliste concrètement, ce Lou Roach ?
Alors, Lou Roach, c'est un styliste que j'apprécie énormément parce que pour moi, c'est un des meilleurs et qui est...
Tout le monde le connaît autour de la table, visiblement.
qui est responsable de l'image de certaines célébrités. Et il travaille forcément sur leur image. Et pourquoi je pense que les stylistes ont toute leur importance lorsqu'ils maîtrisent vraiment ce qu'ils font, c'est que selon moi, un styliste peut, comme on dit en anglais, make it or break it. Il peut, c'est-à-dire, créer une image forte ou alors faire en sorte que la personnalité ne soit pas si, comment dirais-je, qu'on ne puisse pas autant la remarquer. Et il s'auto-appelle lui-même architecte de l'image, et je trouve que c'est très bien choisi, parce que lorsqu'on voit le travail qu'il a pu effectuer avec une actrice comme Zendaya dès ses débuts, et qu'il a pu l'imposer comme une personnalité, en fait, une icône, si je puis dire, une icône, au-delà du fait que ce soit une très bonne actrice, on peut voir que même lorsqu'elle n'a pas d'actualité cinématographique, elle est toujours sollicitée, elle est toujours au devant de la scène, ce qui est très important dans le cas de figure où, voilà, c'est une actrice, elle a besoin d'être visible. On se rend compte aussi, si on veut prendre quelques années en arrière, comme Rihanna, qui, bon, au début de sa carrière, était très mignonne, avec un style qui était très correct, très joli, mais du jour au lendemain, lorsqu'ils ont pris
trash.
Certaines stylistes, ils ont pris une certaine styliste, enfin après, qu'on apprécie ou pas, hein, qui lui a défini une certaine personnalité, tout de suite, c'était devenu une icône de mode.
Merci. Anna, peut-être un dernier mot sur ce qu'il est primordial de retenir sur cette question de l'image, selon vous, que l'on soit une marque ou une personnalité publique ou non.
Alors, on a pu le voir, il y a différents... Enfin, c'est très vaste. Il y a le coaching en image, le travail des stylistes auprès de célébrités. Après, le travail du branding, si, comme nous, par exemple, on travaille à accompagner des marques ou des entités, ce qui est important, c'est d'être à l'écoute de ce que le client veut, être à l'écoute, mais aussi être, comment dirais-je, assez réaliste sur ce qui est possible de faire et toujours prôner le côté unique.
La singularité, c'est ce qu'on retient. C'est vrai que ça revient beaucoup dans cette discussion. Merci infiniment, Anna Touré. On espère vous revoir bientôt dans les studios RFI. Merci pour cet appel.
Alors, on dit quoi ?
Quelles sont les autres spécialisations du métier de conseiller en image ? Il est possible d'intervenir auprès de dirigeants d'entreprises afin de les préparer à des interventions publiques, notamment, ou à diverses prises de parole. C'est justement la mission de Thierry Dim. C'est le directeur de la rédaction du magazine Le Monde économique. Il est également spécialiste des relations publiques qu'il enseigne à l'International Management School of Geneva. Merci infiniment d'être avec nous, Thierry.
Merci encore, Gara, de l'invitation.
Un plaisir. Alors Thierry, dites-nous, la stratégie d'image, c'est hyper important au vu de l'entrepreneuriat africain qui est un peu plus dynamique en ce moment. Pourquoi, justement, c'est particulièrement primordial pour les chefs d'entreprise qui doivent peut-être faire attention encore plus à leur image ?
Moi, je dirais peut-être de premier abord que le dirigeant africain et dans une moindre mesure les entreprises du continent ne s'en rendent peut-être pas compte. Mais la communication est une bataille économique majeure et l'Afrique est en train de perdre cette bataille. Pourquoi est-ce que je dis que l'Afrique est en train de perdre cette bataille ? Pour la simple raison qu'avec le digital, on a pu avoir les outils pour être au même niveau que les Occidentaux. Mais qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui de ces outils qu'on nous donne ? On ne les utilise pas. Combien de personnes autour de vous, combien de dirigeants d'entreprises autour de vous aujourd'hui ont par exemple un profil LinkedIn ? Dire juste LinkedIn, je pense que pour la grande majorité de nos dirigeants d'entreprise, ils vont vous dire on n'en sait rien. Mais tous sont peut-être sur Facebook.
Thierry, vous parlez d'une perte de bataille. C'est quand même fort. Quelle différence il y a avec les Occidentaux ? Peut-être sont-ils plus en alerte sur cette question de la digitalisation ? Quel enjeu différent, finalement, est là par rapport à cette Afrique qui, pour vous, est en perte de vitesse ?
Les Occidentaux ont de l'argent. C'est un continent riche. L'Afrique est un continent pauvre.
Non, l'Afrique est riche, on transforme nos richesses différemment, Thierry.
Alors, l'Afrique est riche différemment, mais dans la réalité, nous vivons quand même une certaine pauvreté. Et c'est à nous de transformer cette pauvreté en richesse pour que ça puisse avoir une certaine équivalence. Aujourd'hui, ce que je souhaite de la part de nos chefs d'entreprise, ce que je souhaite de la part de nos entreprises, c'est de pouvoir exploiter ce qu'on a aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut exploiter ? Le digital. Prenons un cas assez précis. Vous et moi, on a pris contact à travers LinkedIn. Vous m'avez contacté à travers LinkedIn. Ça veut dire qu'aujourd'hui, certaines entreprises peuvent avoir une envie de pouvoir avoir des rapprochements avec des entreprises européennes.
Donc pour vous, la question de l'image, Thierry Dim, passe par la présence au niveau du digital et notamment pour nos chefs d'entreprise, ce qui n'est pas suffisamment le cas selon vous. Alors, ils ne comprennent pas assez la nécessité de faire appel à ce type de service, c'est-à-dire le conseil en communication, notamment sur la présence digitale.
On n'a pas besoin de passer par un conseil en communication. On a juste besoin d'exploiter les ressources qu'on a. Aujourd'hui, on ne peut ne pas les exploiter. C'est une exigence aujourd'hui. Le digital fait partie de nous. On ne peut pas faire semblant comme si ça n'existait pas. Il est là.
Comment vous opérez votre, comment vous définissez plutôt votre stratégie d'image aujourd'hui pour un de vos clients, pour un dirigeant d'entreprise que vous accompagnez?
Aujourd'hui, pour moi, ça doit être assez clair. Si je prends par exemple un dirigeant d'entreprise, peut-être qui vient du Sénégal ou du Cameroun par exemple, la première chose d'abord, c'est d'analyser d'abord son environnement. Qu'est-ce qu'on dit de cette personne sur Internet? Est-ce que cette personne a ce qu'on appelle une empreinte numérique? Parce que pour la grande majorité d'entre elles, il n'y a aucune information sur elles. Comment voulez-vous faire du commerce avec quelqu'un qui ne vous connaît pas? Donc la première chose, c'est au moins de savoir, oh, oh, j'existe. C'est de se dire, est-ce que cette personne qui a une certaine visibilité au niveau de son pays, est-ce que la même personne a une visibilité au niveau de la sous-région, au niveau de la région et peut-être maintenant au niveau international.
Mmh. Thierry, vous restez avec nous, je vais juste poser une question aux filles pour faire un parallèle avec leur présence digitale peut-être de vos clients. Est-ce que vous les accompagnez par exemple sur quelque chose de tout simple, une présence digitale?
Moi, je vais rejoindre M. Thierry par rapport à ce qu'il a dit par rapport à l'Afrique et à la digitalisation. Il faut évoluer avec notre temps en fait. C'est vrai que c'est lent par rapport à l'Europe. Mais ça commence à bouger. On commence à se rendre compte que, effectivement, pour un chef d'entreprise, c'est important d'être présent sur les réseaux. Là où hier, même les politiciens commencent à le faire. Moi, je sais que j'ai été contactée par une personne en politique. Elle se rend compte que, oui, tout le monde est sur les réseaux aujourd'hui. Mmh. Il faut que j'ai une présence aussi sur les réseaux, que ce soit LinkedIn, que ce soit Facebook, peu importe
TikTok,
le média.
TikTok, les politiques sont aussi présents
oui,
sur
voilà.
de nombreux
réseaux sociaux. Et c'est très important, ça commence à changer. Donc oui, il y a ce côté où même si tu es une personne réservée, tu ne veux pas être sur les réseaux. En fait, sur les réseaux, tu choisis de mettre ce que tu veux mettre. Mmh.
Mais
tu
et le volet intime n'est pas forcément
exactement.
Mis en avant.
Exactement. Parce que moi, par exemple, sur mes réseaux, je suis présente, mais les gens ne savent pas vraiment ce que je fais. Ils vont peut-être avoir 2 minutes de ma journée dans une journée à 24 heures. Mais ils auront l'impression d'être avec moi toute la journée, alors que je sais ce que je leur donne. Ces 2 minutes qui créent le lien, mais en fait, vous ne savez pas qui je suis. Mais vous savez que ce que je vous montre. Et c'est cette capacité, en fait, de gérer son image. Parce que l'image, ce n'est pas que le physique. L'image, c'est aussi nos odeurs, nos tenues, les couleurs, même notre manière de parler.
La façon de
s'exprimer. Le sourire, le choix des couleurs, c'est beaucoup de choses. Et l'image, c'est une communication non-verbale. Donc du coup, lorsque je ne sais pas si l'une d'entre vous qui disait, lorsqu'on rentre dans une pièce, avant même qu'on ait ouvert la bouche, par rapport à l'image qu'on va renvoyer, on va se faire une opinion sur nous. Donc c'est important de le maîtriser. Et aujourd'hui, on est dans une société où tout est visuel. On ne peut pas faire comme si ça n'existe pas. On a besoin de voir, donc maîtrisons le visuel et rendons les choses belles. Ce n'est pas du fake, c'est juste une publicité de nous. Il faut qu'elle soit belle.
Merci infiniment Thierry Dim. Merci également pour votre participation. Vous restez avec nous. On écoute Aera Star, Stability. Et on revient pour parler justement de personnalité politique.
Hello, meet everybody for you. Adi Josh et Sheik Bello. Motin son montelle. Bello, deliver like I get Bello. Them say I dego sello. Them say I dego sello. Best to be too fortunate.
Oh,
Aera Star Sability dans Alors on dit quoi ? Vous écoutez depuis tout à l'heure le témoignage de nombreux spécialistes en conseil en images, à l'instar également de Carence Yango, directrice et fondatrice de Calbas, c'est une agence de communication au Cameroun. Elle est spécialiste notamment de la réputation et de la e-réputation. Bonjour Carence.
Bonjour, bonjour Léa.
Carence, votre mission, vous, c'est un peu de travailler et de polir l'image de personnalité. Quel est l'enjeu de ce travail à l'ère du tout numérique dont on parlait à l'instant avec Magali, mais aussi avec Thierry Dim, qui insistait sur l'importance des services autour des dirigeants d'entreprises africains?
Bah, il faut dire que c'est un tournant que les hommes politiques ou les hommes d'affaires que je suis doivent emprunter, parce que sinon, ils seront complètement... comment je veux dire, à côté de l'ère qui est en train de passer en ce moment. Donc l'enjeu est important pour ces personnes-là, parce qu'effectivement, comme je l'ai suivi des autres panélistes, c'est une question d'identité, c'est-à-dire que les compétences que ces personnes ont et qu'elles doivent mettre en avant, mais c'est également une question de réputation, c'est-à-dire la représentation collective. Et si vous n'avez pas de représentation collective, alors que vous êtes une personnalité, ben, à cette ère-ci, vous n'existez simplement pas.
Vous travaillez, vous, également sur le look, la tenue vestimentaire, le maquillage, les coiffures de vos personnalités que vous accompagnez, les personnalités politiques africaines? Est-ce que là aussi, c'est
un enjeu? Oui, parce que dans le positionnement stratégique, effectivement, on travaille non seulement les éléments de langage, mais également le look, donc la coiffure, le vêtement à adopter, en fonction des objectifs que nous nous sommes fixés et du positionnement qu'on va avoir sur la personnalité. Si je prends l'exemple des femmes...
Oui, parce que vous avez dirigé la campagne de la seule femme candidate à l'élection présidentielle du Burkina, d'ailleurs, Yeli Monique Kam.
Oui, tout à fait. Alors, ce qui s'est passé, c'est que ces dévancières, justement, ne comprenaient pas les enjeux. Quand elles arrivaient sur le terrain politique, elles arboraient des vêtements très chers, mais également très voyants, avec des bijoux vraiment hyper voyants. Or, sur le champ politique, le message que ça renvoie, c'est que vous avez une certaine aise et donc vous ne comprenez pas les problèmes des populations qui sont en face. Et donc, il fallait changer tout ça, revoir sa façon de se vêtir, prendre le... Ils ont un tissu traditionnel au Burkina. On a adopté ce tissu pour son plan vestimentaire. Et donc, on a travaillé cet ensemble-là et c'est ce qui a fait en sorte qu'elle se démarque.
Comment on construit l'image de ces femmes politiques africaines? Sur quel point insister? Vous parliez à l'instant de la tenue vestimentaire et parfois de bijoux ostentatoires qu'il faut éviter. Mais peut-être que l'enjeu est bien plus important pour ces femmes établies sur le continent.
Oui, l'enjeu est important au niveau, comme je le disais, du positionnement stratégique. Parce que dans votre positionnement stratégique, il faudrait qu'on sache où est-ce qu'on vous place, comment est-ce qu'on doit vous rendre visible, quelle est votre promotion singulière, quels sont les éléments qui vous rendent singulière. Et donc, c'est tout cela qu'il faut projeter à l'égard justement de votre électorat et des personnes qui vont vous suivre et qui vont constituer votre électorat. Si je prends l'exemple de Yeli Monique Kam, par exemple, elle est arrivée à la veille des élections. Elle a créé son parti politique à 5 mois des élections. Mais on a dû analyser l'électorat. On s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de jeunes. Et donc, il fallait susciter leur intérêt sur les plateformes sociales et donc sur le cyber. On a travaillé véritablement cela parce qu'effectivement, au Burkina, ce que les journalistes disaient d'elle, c'était que c'était une femme qui venait justement agrémenter les élections, sans plus. Donc, c'était une femme pot de fleurs, disons-le vraiment de façon grossière comme ça. Donc, il a fallu travailler pour leur faire comprendre que ce n'était pas juste de la couleur et des cheveux, mais qu'au fond, il y avait des idées à proposer, il y avait un projet de société, il y avait un programme de société, et que la personne en face était tout simplement une femme intelligente. Et c'est ce qu'on a mis en place et finalement ça a marché.
Merci infiniment pour votre témoignage, Carence, et puis salutations à nos auditeurs établis au Cameroun. On arrive bientôt à la fin de cette émission et malheureusement, on n'arrive pas à joindre une de nos auditrices qui voulait absolument vous poser des questions, les filles. Je vais vous lire sa question, je vais me faire porte-voix d'Emeline qui est en Côte d'Ivoire. J'aimerais devenir conseillère en images et communication. J'ai déjà un diplôme en communication. J'ai aidé certains proches à leur prodiguer des conseils pour le bien-être de leur business, dit-elle. J'aimerais savoir à quoi ressemble votre quotidien de coach en images.
Alors, une journée type avec la cliente, donc ça sera donc l'entretien. Donc, on va commencer par la colorimétrie, ensuite par la morphologie du visage, la morphologie du corps. Ensuite, je fais un test de style, pas pour la mettre dans une case, mais vraiment pour la diriger par rapport au style qui pourrait être adapté à ce qu'elle souhaite transmettre. Ensuite, donc il y a la journée shopping, ou soit il y a d'autres clientes où il n'y a pas le shopping du tout, on va chez elles et puis
on trie et on essaie d'établir un look. Voilà, et combien ça coûte tout ça pour vous? S'établit une séance de coaching avec vous, Magali?
Le premier rendez-vous, c'est un bilan d'image de 2 heures. Il est à 450 €. Et à partir de ce premier rendez-vous, je propose un devis. Parce que du coup, pendant les 2 heures, je sais ce qu'elle veut. Je sais où elle veut aller. Je prends le temps de vraiment lui proposer quelque chose de complet. Et je ne fais pas, mes rendez-vous sur une journée.
D'accord.
Je découpe. C'est important pour moi qu'elle assimile chaque séance, parce que pour moi, c'est une expérience. Et à la fin, elle ressorte avec un livrable de toute l'expérience qui leur permet, par exemple, parce que souvent, on peut oublier les conseils, de revenir sur les conseils que je leur ai donnés pour qu'elles puissent garder leur autonomie.
Et pour vous, Rebecca, par exemple, je vois 680 € une séance. C'est une autre personal shopper que j'ai vue sur Internet. Combien débute vos tarifs?
Ça commence à partir de 400 €, sachant que j'ai 3 formules. Parce que chaque client a ses besoins. Nous, on va faire des formules de base, mais quand on va échanger avec le client, on va voir que finalement, ça, il en a besoin, ça, il n'en a pas besoin.
Oui, donc vous allez affiner finalement. Exactement. Et pour vous, c'est combien, Brice Saphir, quand vous dites c'est moins cher?
Moi, c'est à partir de 250 €. J'ai des formules, donc formule shopping. J'ai aussi des forfaits, parce que j'ai des clientes qui n'aiment pas faire le shopping, qui savent à peu près ce qu'elles veulent. Donc là, c'est plutôt la partie personnel shopper. Et donc, elles prennent des abonnements avec moi, par exemple, à partir de 3 mois. Et puis, chaque mois, je leur propose de différents vêtements.
Quelque chose à ajouter, parce que là, c'est le mot de la fin pour vous. Peut-être votre rêve à me partager, Brice Saphir.
Oui, moi, ce serait de créer ma ligne de vêtements. Pour les petites femmes, bien sûr, parce que c'est vrai qu'on demande beaucoup mes références, et j'aimerais vraiment mettre en avant, mettre les petites femmes à l'honneur.
Très beau rêve, et pour vous, Rebecca?
Moi, un rêve, continuer dans ce que je fais, et surtout là, je suis en train d'organiser mon premier événement qui se tiendra le 8 avril. Ça va être un très beau événement.
C'est autour du conseil en image, du bien-être, de la confiance en soi.
C'est ça, et ce que je vais faire, c'est quelque chose que j'ai à cœur depuis plus de 10 ans. Donc, je vais vraiment réaliser mon rêve, rencontrer les personnes que je vois sur les réseaux sociaux. Il y a aussi un défi qui est là en tant que conseiller en image, c'est de si je peux dire, transformer nos abonnés en des clients. C'est ça qui n'est pas forcément évident. Mais là, rencontrer des personnes qui me suivent depuis des années, parce que moi, j'ai commencé à l'époque de Skyblog en 2009 jusqu'à aujourd'hui. Oui, 2008-2009, jusqu'à aujourd'hui, les rencontrer, échanger avec eux autour du thème qui est la confiance en soi, le style et l'identité, et parler des sujets qui sont très profonds et faire intervenir des personnes qui ont quand même l'expérience et qui ont quelque chose à communiquer. Franchement, j'ai hâte de
vivre ce moment. On invite tout le monde à y participer. Et alors, merci infiniment. Merci à vous pour votre participation, Manuel Hakem, Brice Saphir, ainsi que vous, Rebecca Louyeyé. Merci, bien entendu, à toute l'équipe qui a réalisé cette émission, Olivier Beverly, Ablaï Gueye. Je vous souhaite un excellent samedi sur RFI. Oumnon Hagongol. À bientôt.